Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
À la une, reprise de combat ce mardi entre l'armée et le M23 à Djomba et Bouéza dans le retour au Nord Kivu. Bilan, au moins 3 morts et 2 blessés d'après des sources sur place. Le porte-parole des opérations Sokola 2 déplore ce qu'il qualifie de violation de la trêve par le M23. Situation sécuritaire encore tendue à Kwamout dans le Maïndombe. C'est à la suite du conflit interethnique entre les peuples Teke et les Yaka. Entre dimanche et hier lundi, on signale 2 blessés et l'incendie des maisons au village Nsia. Ce village est d'ailleurs vidé de ses habitants. Et puis, le Trésor américain demande à la RDC de réévaluer les conditions de l'accord dit à l'amiable signé cette année entre Dan Gettler et le gouvernement congolais. Cette initiative réjouit la structure. Le Congo n'est pas à vendre. Pour en parler, nous recevons Jimmy Kande, chargé de communication de cette structure. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Les combats ont repris ce mardi vers 3h du matin entre les FARDC et les rebelles du M23, notamment dans les groupements de Djomba et Bouéza dans le Rutshuru. Certaines sources dans la région parlent d'au moins 3 civils tués et 2 autres blessés par un obus qui aurait été lancé par les rebelles dans le village Tchankere, localité de Rwanguba. C'est ce qui a créé la panique dans cette zone qui s'est vide depuis 8h locales de ses habitants. Le porte-parole des opérations Sokola 2 qui confirme formation déplore ce qu'il qualifie de violation de la trêve par les rebelles, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, dans ses propos recueillis par Radio Kapi.
Effectivement, vers 3h20 du matin de ce mardi 16 août, 3 de nos positions se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaqués simultanément par le M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise en violation de la trêve imposée par les sommets des chefs d'État de Nairobi dans le cadre, bien évidemment, de l'East African Community. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que à l'heure actuelle, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent professionnellement toutes ces positions et contiennent l'ennemi dans ses positions initiales. Il est vrai qu'au regard des tirs aveugles de l'ennemi, la population devait se mettre à l'abri de ces tirs et voilà pourquoi il y a eu ce mouvement de population.
Selon la société civile de Djomba, la situation est inquiétante dans cette partie du territoire de Rutshuru, surtout pour la population civile qui vit dans l'incertitude permanente. Par ailleurs, la coordination de la société civile de Rutshuru dresse un bilan sombre des 2 mois d'occupation par le M23 de plusieurs zones de cette entité. Cette structure l'a révélé lors d'une conférence de presse hier à Rutshuru. Selon le président de la coordination de la société civile de Rutshuru, la situation sur le plan sécuritaire et humanitaire dans tout le territoire n'est fait que c'est dégradé. Jean-Claude Bambazé appelle à une mobilisation nationale et internationale pour améliorer la situation. On l'écoute.
Sur le plan humanitaire, la situation est vraiment catastrophique. Au-delà d'une centaine de milliers de déplacés que nous avons dans le territoire, en y ajoutant des milliers qui sont réfugiés en Ouganda et vivent dans des conditions inhumaines. Il y a eu beaucoup de morts à Rusake, à Kabindi, il y a eu beaucoup de morts. Que la situation est très très grave, de telle sorte que si rien n'est fait, en tout cas c'est vraiment une catastrophe qu'on est en train de vivre.
Fustigeant la trêve observée par les FARDC dans la zone des combats, alors qu'à plusieurs reprises elle subit les attaques du M23, la société civile annonce des actions de pression au gouvernement congolais pour imposer la stabilité dans la zone. Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero, les Maïmaï du groupe Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC, ont instauré les taxes illégales dans la localité de Vuinga et ses environs. Ils exigent une somme mensuelle variant entre 2000 et 15 000 francs congolais selon les catégories de travail de chaque habitant. De son côté, le groupe AFPP-AP de Cabido exige 1000 francs congolais par habitant le mois à Muhangi, à une distance de 12 km. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, qui dit être au courant de cette situation, dit attendre l'intervention militaire pour mettre fin à ce phénomène. Et vous le savez, les contingents des forces de défense du Burundi sont entrés officiellement hier en RDC par la frontière de Kiliba en territoire d'Uvira au sud Kivu. Le déploiement des militaires burundais dans l'est du pays intervient pendant que l'armée ougandaise mène également des opérations conjointes avec les FARDC contre les EDF depuis bientôt 9 mois. Voyons avec Pierrot et Lamenji la cartographie du déploiement des armées burundaises et ougandaises en RDC.
L'armée ougandaise est déployée depuis novembre 2021 dans les provinces du Nord Kivu et d'Elituri. Les territoires de Beni et d'Irumu sont les principaux champs d'action de l'UPDF. Dans cette région, environ 1700 militaires des forces spéciales et de l'infanterie de l'armée ougandaise déployés avec leur artillerie et les blindés mènent des opérations conjointes avec les FARDC contre les rebelles de l'ADEF. Ces militaires de l'UPDF sont placés sous le commandement du général-major Kayandia Mohanga qui a son quartier général dans les territoires de Beni. Depuis hier lundi, un contingent de l'armée burundaise est entré officiellement sur les sols congolais par la frontière de Kiliba au sud Kivu. Même si ces soldats sont encore cantonnés au centre d'instruction de l'armée à Lubérizi dans la plaine de la Ruzizi, ils devront se déployer dans la zone du secteur opérationnel Sokola 2 sud de FARDC, couvrant toute la province du sud Kivu. Objectif, traquer tous les groupes armés congolais et étrangers dans le cadre de la mutualisation des forces décidée par le chef d'état de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le déploiement d'autres contingents des pays de l'EAC est attendu dans l'est du pays.
Parlons justement du déploiement de la force militaire régionale dans l'est de la RDC. Notez que ce déploiement avait été approuvé à l'issue d'un sommet des chefs d'État ayant réuni au mois de juin dernier à Nairobi les présidents du Kenya, de la RDC, de l'Ouganda, du Sud-Soudan, du Burundi, du Rwanda et le représentant de la présidente de la Tanzanie. En effet, des dizaines de groupes armés s'affrontent aux forces gouvernementales depuis des décennies dans la partie orientale de la RDC. Mais quelle est la cartographie de ces groupes armés réputés plus virulents qu'ils soient nationaux ou étrangers, ciblés par la force militaire régionale, Fiston Ngoma.
L'agenda et les contours opérationnels de cette force militaire régionale n'est pas encore connu. Selon les observateurs locaux, les contingents de l'armée burundaise pourraient se focaliser d'abord sur les rebelles burundais des Rouet de Tabara, dont la présence avait été signalée dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira et Mwenga. Leur proximité avec la frontière burundaise pourrait expliquer cette option. Les mouvements transfrontaliers ainsi que la présence limitée de l'autorité de l'État dans les zones qu'ils contrôlent ont offert une bonne santé à ces groupes rebelles burundais. Les forêts des Fizi, Uvira et Mwenga hébergent plus de 80 groupes armées locaux et étrangers. La virulence des groupes armés locaux est plus observée dans les hauts plateaux de Minembwe, où des accrochages récurrents opposent les Turwane au Bulozibi Shambuke. Tandis qu'à l'extrême sud du territoire de Fizi, la menace posée par les activités complexes du réseau Mai Mai Yakutumba, qui opère dans ces zones, ainsi que d'autres groupes armés dont les pygmées Toa, pourraient être combattus. En Ituri, les groupes Kodeko et Zahir opérant dans les territoires de Djougou et FPIC dans les territoires d'Irumu sont les plus virulents et pourraient être la cible de la force militaire et régionale. Tandis qu'au nord Kivu, les M23 d'Ambunagana et les Rutshuru, FDLR éparpillés dans le parc de Virunga depuis 1994, les ADF dans Beni et les environs, les Nyatura dans le Masisi ainsi que les Mai Mai APCLS, pour plusieurs observateurs, cette guerre est asymétrique et complexe au regard des alliances existantes entre tous ces groupes armés locaux avec les groupes armés étrangers proches des forces militaires qui viennent les combattre. D'Ouvira, Fiston Ngoma, Mayabala, Radio Okapi.
Province de Maïndombe, ce conflit interethnique entre les peuples Teke et les Yaka qui sont non originaires dans le territoire de Kwamout, la situation demeure précaire. En l'espace de 2 jours, soit dimanche et hier lundi, on signale plusieurs dégâts, entre autres l'attaque du village Nzeme par des hommes armés présumés Yaka. Bilan, 2 blessés par balle et l'incendie des maisons du village Nsia qui est d'ailleurs vidé de sa population. DDT avec Irène Boma.
La tension ne baisse toujours pas dans le territoire de Kwamout au Maïndombe. Dimanche dernier, au village Nzeme, les non-originaires ont tiré sur des jeunes gens qui se sont grièvement blessés à l'épaule et au bras. Pour l'instant, les victimes sont internées à l'hôpital général de Kwamout pour des soins intensifs, a alerté M. Kennedy Mutoo, préfet des études d'une école de la place. Selon lui, toutes les activités champêtres et socio-économiques sont paralysées dans cette contrée, avec comme conséquence la famine. Et hier lundi, ces hommes armés ont incendié toutes les maisons du village Nsia, situé à près de 12 km de Nzeme, avant de prendre en otage 2 personnes qu'ils ont amenées à la ferme Luene où ils font la loi. C'est ce que rapporte Fidèle Lizorongo, coordonnateur de l'ONG ADH basée à Nyoki. Il ajoute qu'à l'heure actuelle, le village Nsia est vidé de sa population population qui se trouve en débandade. Fidel Lizorongo appelle les autorités nationales à restaurer la paix à Kwamont. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Direction la province du Tanganyika. 16 enfants mineurs sont retournés hier à Kalemi après avoir été kidnappés. Une femme est accusée d'être auteur de cet acte. Elle a été appréhendée dans la ville d'Uvira au sud Kivu par les services de sécurité. Elle était accompagnée des enfants. D'après le maire de Kalemi, la femme a réussi à quitter la ville de Kalemi avec ses enfants sans que les services de sécurité ne s'en rendent compte. Paulin Munanga nous raconte.
La plupart de ces enfants ont l'âge qui varie entre 11 et 7 ans. D'après leurs parents, jeudi dernier, la femme qui est au cœur de cette affaire a réussi à user des astuces pour prendre ses enfants. C'est notamment pour soi-disant les amener à la kermesse. Cependant, elle a réussi à quitter le port de Kalemi avec tous ses 16 enfants en direction d'Uvira dans le sud Kivu. Le maire de Kalemi ne comprend pas comment cette femme a trompé la vigilance de tous les services de sécurité qui œuvrent au port de Kalemi. Gédéon Kakuji Kalama.
Je ne pouvais pas imaginer dans un port, ces enfants vont passer alors qu'il est connu qu'aujourd'hui, pour qu'un enfant se déplace d'un lieu à un autre, il faut qu'il y ait l'autorisation parentale. Les services de l'ANR, les services de DGM, les services de la police aux frontières, le commissaire maritime, est-ce qu'ils ont eu le temps de vérifier qui sont ces enfants qui voyagent? Ils avaient quel document? Et quelle est la nature de la personne qui transporte ces enfants-là? C'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour.
Alertés, les services de sécurité au port d'Uvira ont arrêté la femme et ont retourné tous les enfants à Kalemi, leur lieu de provenance. Pour sa part, le maire de Kalemi ne parle pas encore du kidnapping de ses enfants avant l'aboutissement de l'enquête. Ses enfants sont encore gardés par le gouvernement du Tanganyika pour raison d'investigation. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Kasai Oriental, une grande partie de la ville de Mbujimayi est dans le noir depuis plus d'une semaine. La direction générale de l'entreprise énergie du Kasai, NRK, qui exploite l'énergie de la centrale hydroélectrique de la société minière de Bakwanga installée à Tchala, évoque des pannes survenues sur deux machines sur les trois qui fonctionnent depuis quelques mois. Selon le directeur général de NRK, malgré les difficultés financières, les équipes sont à pied d'œuvre pour que la situation soit décantée partiellement dès ce soir. Victor Kabongokavich, directeur général de NRK, explique la situation au téléphone d'Esther Dalafina.
Nous avons des difficultés au niveau de l'exploitation à Tchala, où subitement on est tombé à une machine sur des trois qui tournaient. Les efforts ont été déployés, si bien que dimanche, les gens avaient remarqué quand même un léger changement parce que on venait de remettre la deuxième machine au réseau. Et la machine ne fera que 24 heures pour reposer encore des problèmes. Hier, les équipes ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit. À 5 heures du matin, ils ont découvert la panne qui dérangeait la deuxième machine. D'ici à la tombée de la nuit ou aux heures de nuit, la deuxième machine là sera remise en service et la situation va un peu changer dans le bon. Mais pour revenir à la situation qu'on avait il y a 15 jours, là il faudra remettre la troisième machine en service. Pour cela, il y aura des pièces à prendre sur l'une des machines pour les shifter vers la machine qu'on veut remettre. C'est un travail qui nous prendra pratiquement 15 à 20 jours. Nous exploitons avec les vieilles machines, puis la modicité de nos moyens financiers. Je suis présentement à Kinshasa en négociation avec les partenaires pour pouvoir nous appuyer afin de sortir de cette crise.
Province du Congo central, l'autorité urbaine déclare la guerre contre les auteurs de la pollution sonore dans la ville de Boma. Dans une correspondance adressée aux responsables de la police de cette entité, Marie-Josée Nyongonswami affirme avoir enregistré des plaintes de la population sur les tapages nocturnes et diurnes dans la ville de Boma. À cet effet, l'autorité urbaine interdit tout tapage diurne avant 15h30 et nocturne après 21h. Elle appelle les forces de l'ordre à mettre la main sur les récalcitrants. Des précisions avec Nana Plurich Mambou.
Dans sa correspondance signée ce 15 août, le maire de Boma affirme la reprise avec acuité du tapage nocturne et diurne émanant de bars, de deuils, de fêtes, des églises, des maisons d'édition musicale et des motos. Selon Marie-Josée Nyongonswami, cette nuisance sonore sur la population génère le manque de sommeil, le stress qui agissent négativement sur le système nerveux en affectant dangereusement à la santé humaine. Cette pollution sonore entame la qualité et les rendements professionnels, a-t-elle souligné dans cette lettre. Pour ce faire, cette autorité urbaine instruit les forces de l'ordre à mettre hors d'état de nuire toute personne physique ou morale récalcitrante, auteur des tapages nocturnes et diurnes avant 15h30 pendant la journée et après 21h pendant la nuit, etc. acceptés le week-end jusqu'à minuit. Ceci est conformément au décret du Premier ministre du 8 mai 2014 portant réglementation de la production sonore en RDC qui, selon elle, n'a pas encore été abrogée jusqu'à ce jour. Madame le maire de Boma invite les bourgmestres, le chef des quartiers ainsi que la presse à sensibiliser d'abord la population et à saisir les services de sécurité chargés de constater ces délits. Pour Marie-José Nyongonswami, la population doit dénoncer en temps réel ces abus afin de permettre à toute personne de jouir de ses droits de 8 heures de travail, de 8 heures de repos et de 8 heures de sommeil. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté ce mardi le port de Pivdeni dans le sud de l'Ukraine avec quelque 23 000 tonnes pour l'Afrique. C'est ce qu'a annoncé le ministère ukrainien de l'infrastructure. Le navire Brave Commander avec du grain pour l'Afrique est parti ce matin pour le port de Djibouti où les vivres seront livrés à l'arrivée aux consommateurs en Éthiopie, a indiqué le ministère sur Telegram. Au Soudan, on en sait un peu plus sur le bilan des inondations qui ont durement frappé le pays ces dernières semaines. Selon le Conseil national pour la défense civile, 52 personnes auraient trouvé la mort depuis mai dernier, début de la saison des pluies. Sur le plan matériel, plus de 8000 maisons ont été détruites ou endommagées. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines semaines.
L'invité.
Rebondissement dans le dossier accord dit à l'amiable signé en février dernier entre Dan Gettler et le gouvernement congolais. Selon le média Africa Intelligence, le Trésor américain demande au gouvernement de la RDC de réévaluer les conditions de cet accord qui permet notamment à la RDC de récupérer les blocs pétroliers et les actifs de Dan Gettler. La plateforme des ONG de la société civile Le Congo n'est pas à vendre s'est réjouie de cette initiative américaine. Jimmy Kande, chargé de communication de cette structure, est notre invité. Il répond aux questions de Paul Matendo Mayamba.
Jimmy Kande, bonjour.
Bonjour, monsieur Paul Matendo.
Selon le média Africa Intelligence, les trésors américains auraient demandé au gouvernement congolais de réévaluer les conditions de l'accord signé entre Dan Gettler et le gouvernement. Quelle lecture faites-vous de cette exigence américaine?
Alors, il faut noter qu'aujourd'hui, la demande du trésor américain rejoint un peu nos différentes préoccupations. Vous allez sans doute vous rappeler que lors de la signature de ce deal, nous avons déjà commencé à décrier ce deal. Autant nous étions enthousiastes au regard de l'initiative, mais lorsque nous avons commencé à prendre les différentes clauses, autant par des sorties médiatiques de différentes personnes qui ont participé à la signature de ce contrat, et même lorsque nous avons participé à cette table ronde, nous avons pu avoir un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de pouvoir critiquer cet accord, notamment le fait que la RDC, dans la signature de ce contrat, n'a pas pu tenir compte des pertes qu'elle a eues à subir, que nous avons estimées à près de 2 milliards de dollars, tel que nous l'avons pu documenter dans notre rapport des milliards perdus que nous avons publié l'année dernière. Et aujourd'hui, voir les États-Unis, qui est un partenaire privilégié du gouvernement Tshisekedi, être en train de demander pratiquement la même chose, pour nous, cela nous réjouit de voir que voilà, nous avons d'autres acteurs qui entrent en jeu, qui demandent pratiquement la même chose, et cela va nécessairement dans l'intérêt des Congolais, parce que nous pensons que la RDC peut récupérer plus que ce qu'il a récupéré, ce qu'il semble récupérer actuellement avec ces deals.
À l'époque, votre structure, le Congo n'est pas à vendre, avait exigé également que soient publiées les clauses de cet accord. En avez-vous officiellement reçu une copie?
À l'époque, nous avons certes exigé que les clauses de cet accord puissent être publiées ou que ce contrat puisse être publié. Jusqu'à aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Et nous, en tant que Congo n'est pas à vendre, nous n'avons jamais reçu ce contrat. Nous avons certes participé à cette table ronde où une projection de ce qui est censé être l'accord avait été fait, mais que cela est une exigence de la loi et que les Congolais ont droit d'être informés et de savoir Quels sont les contenus dans cet accord?
Toujours selon ce média, le gouvernement américain envisage de sanctionner certaines personnalités congolaises liées directement ou non à cet accord. Quel est votre commentaire?
Que le gouvernement américain envisage de sanctionner certains officiels congolais qui ont participé à ces négociations, cela relève de la politique américaine et qu'ils ont certainement de levier à leur niveau qui permettent de pouvoir arriver à sanctionner là. Si le gouvernement américain ou l'administration américaine pense que cela est les moyens pour arriver à pouvoir obtenir, cela ne relève que de l'initiative américaine. Ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir appeler le gouvernement congolais à pouvoir publier déjà ce contrat, et toute pression qui peut provenir d'autres pays suivant leurs politiques internes ne peuvent être qu'encouragées de notre part.
Plusieurs sources indiquent que Dan Gittler était à Kinshasa peu avant l'arrivée de Blinken. Est-ce que c'est pour demander au gouvernement congolais de plaider en sa faveur?
L'article d'Afrique Intelligence, d'ailleurs, parce que c'est cet article qui annonce que Dan Gittler aurait été à Kinshasa juste 24 heures avant l'arrivée de Monsieur Blinken. Vous savez que dans ce que nous avons pu apprendre de ce contrat, la RDC s'était engagée à plaider. La RDC est devenue l'avocat de Gertler afin que l'administration américaine puisse lever les sanctions. Et si cette visite a certainement eu lieu, c'est certainement dans le cadre de l'exécution de ce contrat qui appelle la RDC à pouvoir plaider en faveur de Dan Gittler auprès de l'administration américaine.
Jimmy Kandé, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Paul.
Notre invité est le chargé de communication de la structure Le Congo n'est pas à vendre. Il répondait aux questions de Paul Matendo Mayamba. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe, Mimi Kindo à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.